femmes de caractère.
Rencontre avec des femmes qui agissent, écrivent, voyagent et qui pensent avec leur temps.
Françoise Ramel vous invite sur Radio Brodunette à des rencontres avec des femmes inspirantes.
Oreilles attentives et curieuses d'ici et d'ailleurs, je vous invite aujourd'hui à faire la connaissance d'une jeune femme étonnante. Ambiance boudoir, à l'étage d'une belle maison à colombage transformée en café du théâtre, nous sommes à Moncontour, petite cité de caractère, et mon invitée de la semaine s'appelle Anne Gaud Millory. Bonjour Anne Gaud.
Bonjour Françoise.
Qu'est-ce qui a bien pu m'attirer dans cette ville du centre-Bretagne, sinon toi Anne Gaud? On s'est rencontrés vraiment par hasard un soir au Palais des Congrès de Pontivy, à l'issue d'une réunion d'information. J'avais compris que tu étais candidate au municipal, mais on en parlera plus tard. Mais c'est surtout que le fait que tu avais ouvert un café du théâtre dans cette petite commune rurale que j'adore, qui m'a incitée à faire ta connaissance. Est-ce qu'on peut aujourd'hui partager une partie de toi, de ton histoire personnelle, de tes envies? Comment tu peux parler de toi?
Comment je peux parler de moi? En parlant du café du théâtre, par
quand
exemple.
Tu veux.
C'est une bonne façon de commencer parce qu'on y est, que c'est à la fois un lieu ouvert au public et ma maison. Donc c'est ma façon à moi de partager ce que j'aime et ce que je suis. Et donc du coup, c'est un lieu où on raconte des histoires en conte, en théâtre ou en chanson. J'aime bien raconter des histoires. C'est une façon de parler de moi que de dire ça. Je suis connue pour être assez bavarde et voilà. Et du coup, et des histoires, j'en ai entendu depuis toute petite. C'est le premier qui me racontait des histoires, c'était mon papy, par exemple. Nous, on était beaucoup de petites filles. Enfin, j'ai juste deux cousins de ce côté-là. Mais toutes les petites filles, on était assises sur le canapé, enfin sur le fauteuil d'un côté, de l'autre, sur les genoux, partout. Et mon papy nous racontait des histoires et on savait jamais si c'était vrai ou si c'était faux. C'était des histoires de son enfance, c'était des histoires de sorcières, c'était des histoires de guerre. Et à chaque fois, à la fin de l'histoire, on regardait ma grand-mère et on disait « C'est vrai, mamie ?» Et un coup, elle nous disait « Non, l'écoute pas, il te raconte n'importe quoi. » Et parfois, elle nous disait « Si, si, c'est vrai. » Et toutes les petites filles, on a fait ça. Notre papy nous racontait une histoire et à chaque fois, on a regardé notre mamie. « C'est vrai, mamie ?» Voilà un bout de moi et des histoires que j'aime écouter et raconter.
Alors ça se passe où, ça? T'es où à ce moment-là?
Je suis à Floirac, donc ça c'est la banlieue de Bordeaux, donc chez mon papy et ma mamie, c'est une cité HLM. Lui, il était cheminot, et d'ailleurs, enfin, ça contribue à mon amour des trains et des voyages, et voilà, et donc c'est la banlieue de Bordeaux. C'est pas là où j'ai grandi, de l'autre côté de la banlieue bordelaise, mais ce que je vous raconte, ça a lieu sur la rive droite de Bordeaux.
Alors, cet amour des histoires qui arrive dans l'enfance, est-ce qu'il va trouver une traduction dans tes choix de formation, dans tes choix de vie? L'adolescente reste accrochée à cette part de rêve et de mythe?
Je dirais pas que ça se traduit dans mes choix de scolaire ou de choix professionnel. Non, c'est plutôt resté à côté. Maintenant, c'est peut-être maintenant que ça revient. Donc, le café du théâtre, c'est... je fais le saut dans le temps, mais c'est un peu une façon de... Au-delà du côté bon élève qui a suivi le parcours un peu... pas classique, mais qui va tout seul. Donc, j'ai fait des études longues, bac plus 5, et je m'étais dit, tiens, je ferai du manuel après, puis finalement, c'est au café du théâtre que je mets la main à la pâte. Ben, c'est pareil pour le côté artistique ou culturel. C'est quelque chose que j'ai fait un petit peu... un peu de théâtre au collège, un peu de théâtre pendant mes études en bossant, mais pas vraiment quoi. Enfin, j'ai fait de la danse, ouais. Enfin, quelque chose d'assez classique quoi. Donc c'est maintenant presque que je fais de la place à tout ça. C'est pas pendant cette période-là.
Alors, au-delà des histoires, qu'est-ce qui a rempli ta vie jusqu'à décider de venir en Bretagne? Et on va voir si on peut dérouler ce fil-là. Mais donc, qu'est-ce qui prenait de la place jusqu'avant le café du théâtre?
Alors, ce que je raconte souvent, c'est qu'à l'âge de 12-13 ans, comme pas mal de gens, moi, je voulais changer le monde. Ça prend de la place. moi, je voulais être présidente de la République. Donc, si on demande à mes camarades de classe, d'école, du collège, du lycée, et même après, ils s'en rappellent encore. Donc ça, oui, ça, c'est quelque chose dont je me rappelle. Et j'ai fait des études de sciences politiques. Parce qu'à 18-19 ans, on est jeune et on a soif, quoi, de changer le monde. Et pour moi, pour le changer, il fallait le comprendre. Donc je trouvais ça assez pratique, des études où on faisait un peu tout et on était curieux du monde. Je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça se passait. Que le monde, je pouvais le comprendre mieux, mais que je... c'est pas forcément comme ça que j'allais le changer. En tout cas, c'était un peu théorique. Et en même temps, j'ai, alors, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai appris qu'il fallait aussi apprendre à se changer soi. Donc ça, c'est revenu un peu plus tard dans mon idée de changer le monde. Mais que à 12-13 ans, je m'étais dit, rappelle-toi quand même bien fort de ce que t'es en train de te dire, parce que je voyais des adultes qui avaient bien oublié leurs rêves. Et je m'étais dit, faut que tu te rappelles cette soif de justice et cette envie, voilà, cette envie-là. Si je remonte un peu sur mon envie de changer les choses, sur des choses simples, c'est des choses d'école, en fait. J'ai des souvenirs très précis où quand même j'ai pris la parole. Je pense que c'est aussi ça, la question de prendre la parole. C'est hyper important pour moi. Pour des élèves ou des camarades de classe qui étaient avec des étiquettes de cancre, de cancre ou de turbulent, enfin, je sais pas comment dire. Et chez qui, moi, je voyais aussi autre chose et ça ressortait quasiment jamais. Et du coup, ils devenaient assez facilement soit bouc émissaire, soit délaissés. J'ai deux souvenirs en tête. Le premier, c'est un... David, ouais, il s'appelait David. Et il n'était pas hyper bon à l'école. Et je me rappelle qu'à la cour de récréation, il avait fabriqué un bateau avec un moteur, mais avec trois fois rien, qui faisait flotter sur une flaque d'eau. Et je me dis, mais moi, je suis incapable de ça. Enfin, j'ai des bonnes notes, tout va bien, ok, mais ça, je sais pas faire, et c'est hyper fort, quoi. Et ben, il y avait rien qui valorisait ça. Et par exemple, j'y pense assez souvent, et je trouve ça dégueulasse, en fait, simplement dégueulasse.
Et l'autre exemple,
c'était plutôt pour le coup, un côté turbulent, pareil, ben, genre le dernier de la classe, quoi, un peu rentre-dedans, et finalement, quand il est en cours de récréation, tout le monde, enfin, on vient facilement le chercher. Donc, on est dans la provoque. Et je ne sais plus ce qui s'était passé, mais bref, il avait eu une altercation avec un autre camarade. Et il voulait un peu se défendre. Et tout le monde le retenait. Et l'autre camarade était en train de, en fait, sous son nez, de le provoquer. Et lui, il ne pouvait rien faire. Et donc, je trouvais ça quand même un peu dégueulasse de jouer ce jeu-là. Et donc, la maîtresse a voulu le réprimander. Et quand on est rentré en classe, et j'ai levé la main en disant, mais en fait, non, c'est... Alors, je ne me rappelle plus du prénom du camarade en question, mais ce n'était pas lui qui était fautif, on était venu le provoquer. Et en fait, je trouve que c'est... Enfin, voilà, ça fait partie des choses où c'est trop facile. Et dans ces moments-là, oui, je lève la main et je dis, je suis désolée, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et c'est... Enfin, c'est trop facile de taper toujours sur les mêmes et de pas voir ce qu'il y a de bon en chacun, quoi, et à valoriser. Et voilà, donc j'étais un peu... Bah, je crois que j'étais déléguée de classe. Pas déléguée de classe, mais j'étais un peu comme ça.
T'étais devenue un peu la porte-parole, et en tout cas, peut-être déjà une sorte de... en tout cas, tu te positionnais sur les causes, qu'elles soient gagnées ou perdues, c'était pas ça le problème. Il y avait à agir, et tu t'engages.
Ouais, c'est plus fort que moi, faut que je lève la main et que je dise, enfin, c'est encore vrai aujourd'hui, quoi. On peut être plusieurs à le penser derrière, mais on n'est pas beaucoup à oser le dire, et c'est là où je rejoins la conversation avec mon père, mais si on est d'accord, alors on y va. Enfin, et en fait, c'est cette question de qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on se donne du courage, en fait.
Alors, pour se donner du courage, on écoutera tout à l'heure le premier morceau de musique que tu as choisi, qui s'intitule, et c'est pas par hasard, « J'irai au bout de mes rêves », et je n'ai même pas besoin de dire l'auteur de ce très très beau texte. Mais un texte, toi aussi tu écris. Est-ce que tu peux nous lire un texte de Anne Gaud Millory?
Oui, je peux.
Alors, surprise.
C'est un texte que j'ai écrit, mais qui, par la suite, s'est transformé en conte. Mais là, je lis le texte original. Un cocotier qui grandit. Avez-vous déjà vu un cocotier grandir? Savez-vous comment cela se passe? Savez-vous que c'est parfois douloureux? Eh oui, un cocotier qui grandit, il souffre. Il était là, tranquille, dans son petit jardin. brandissant ses jeunes et grandes branches ombrageuses pointées vers le ciel, et laissant tomber nonchalamment les feuilles jaunâtres et vieillies, celles-là même qu'il avait brandies aussi haut quelques mois auparavant. Oui, il était là, tranquille. Caressant de ses vieilles branches tombantes, les têtes plus ou moins chevelues des visiteurs de son jardin. Il les aimait bien, les visiteurs de son jardin. De sa petite hauteur, il les regardait. Il les laissait venir se poser tout contre lui, pour qu'ils se reposent, pour qu'ils se ressourcent, pour qu'ils sentent vibrer sous son écorce toute la force d'un arbre qui vit et qui grandit. D'une certaine manière, il les protégeait. Il avait juste la bonne taille pour cela. Il n'était plus tout jeune, la fougue de la jeunesse l'avait quitté il y a quelques saisons des pluies. Depuis, il n'avait pas beaucoup grandi et tardé à donner des fruits. Pas une seule noix de coco en vue. Mais avec sa petite hauteur, on pouvait se glisser juste sous ses branches, presque s'y blottir, puis lever les yeux et apercevoir à travers les fines feuilles élancées les rayons du soleil ou le halo de la lune. Et à l'abri du cocotier, ni trop grand, ni trop haut, les visiteurs aimaient venir caresser ses feuilles, ses branches et son écorce si douce. Lorsque la nuit tombait, certains s'attardaient pour lui confier leurs petits ou leurs gros soucis, parfois même quelques-uns de leurs secrets. Mais c'était sans compter sur la main de l'homme, qui aime quand c'est propre et quand ça avance. Alors il a fallu quelques coups de machette pour arracher ces vieilles branches vieillissantes qui faisaient sale dans le jardin. Et là, le cocotier sembla avoir grandi d'un coup. Oh, bien sûr, il mesurait toujours la même taille, mais son tronc dégagé, presque nu, et ses nouvelles cicatrices, comme des blessures laissées à vif, lui donnaient un air élancé qu'on ne lui avait encore jamais connu. Les premières semaines furent difficiles, pour lui comme pour ses admirateurs. Et lui souffrait d'un mal nouveau, la sensibilité. Le moindre courant d'air, le moindre effleurement sur son tronc laissé sans écorce, le laissait frémir de bas en haut et de haut en bas. Jamais il n'avait été aussi sensible, à fleur de peau. Et ses admirateurs, qui aimaient caresser ses branches, ne pouvaient à présent qu'effleurer du bout de leurs doigts quelques feuilles plus longues que les autres. Alors ils regardaient le cocotier, avec sa nouvelle taille élancée. Comme si pour grandir il fallait non seulement souffrir, mais aussi s'éloigner de ceux qui ne demandaient qu'à l'aimer. Les jours passèrent, les blessures se refermèrent, l'écorce avait recouvert les plaies. Seuls les regards attentifs pouvaient à présent deviner les entailles qui avaient été faites. Et de nouvelles branches jeunes et vigoureuses pointèrent droit vers le ciel. Ces jeunes branches insolentes de force et de jeunesse contraignirent les plus anciennes à se coucher, à laisser leur place. Et dans ce jeu de passe-passe, les vieilles branches redevèrent accessibles aux visiteurs du jardin. L'arbre avait finalement grandi, mais le manège des branches chassées les unes par les autres offrait une dernière révérence à leurs admirateurs. Comme si, après avoir fièrement arboré sa jeunesse triomphante et orgueilleuse, toute branche, avant de retourner frôler le sol puis tomber, offrait une dernière danse à ses admirateurs et se rendait accessible, se laissait toucher. Et finalement, l'éloignement des premières déchirures ne se révéla que passager. Le cocotier redevint un abri paisible et protecteur. Un abri différent, un peu plus grand, un peu moins proche, mais l'essentiel avait été préservé. Et parce que nul ne peut rester contraint à mesurer 2,80 m les feuilles levées, sous prétexte d'être aimé par des lutins, les visiteurs commençaient à accepter que le cocotier grandisse lui aussi, qu'il affronte les tempêtes et les déchirures de la vie, celles infligées par la nature et celles infligées par l'homme. Car même dans les épreuves infligées par l'homme, le cocotier sortait grandi. Loin d'être abattu, il redoublait d'énergie pour refaire son écorce et grandir encore. Et au rythme des saisons des pluies et des coups de machette, cette énergie-là finit par porter ses fruits. On voyait à présent poindre quelques noix de coco. Elles n'étaient pas plus grosses que des noisettes et il était difficile d'imaginer qu'à l'intérieur de ces petites coques vertes renfermerait bientôt une noix brune et poilue au cœur tendrement blanc. Et pourtant c'était bien cela. La valse des vieilles branches dansantes, le jeu des passe-passe des branches chassées par les plus jeunes puis déchirées par la main de l'homme et de sa machette. Tout cela combiné avait fait l'histoire de ce cocotier. Histoire de cicatrices et de caresses, histoire d'abri et de lumière filtrée. Et aujourd'hui, cette histoire portait ses fruits. des petites coques vertes qui promettaient de devenir juteuses et sucrées et de régaler tous les visiteurs qui viendraient s'en rassasier.
Femme de caractère, Françoise Ramel.
Donc toujours dans le joli boudoir chez Anne Gaude Millory, nous venons d'écouter Jean-Jacques Goldman. Donc tu es apparemment allée au bout de tes rêves, ou en tout cas de certains, Anne Gaude. Comment tu es arrivée en Bretagne? Est-ce que c'est une région que tu connaissais quand tu vivais dans la région de Bordeaux? Ou est-ce que le hasard t'a emmenée jusque chez nous, en Centre-Bretagne, à Moncontour précisément?
Alors, pas le hasard, non. Moi, j'ai un grand-père qui est breton, qui est sur la côte, là, du côté de Saint-Ca. Donc, et puis j'avais des cousins à Loudéac. Donc quand j'étais petite, j'allais régulièrement en vacances en Bretagne. J'ai un prénom qui est en partie breton. Et j'ai fait mes études à Rennes. Donc la Bretagne, c'est quand même, j'allais dire, une terre où je me sens bien et que j'aime. Et où, voilà, que je connaissais, on va dire, d'une certaine manière. Et en fait, au moment de faire mes études. Et puis après, je suis partie très vite à l'étranger, à Paris puis à l'étranger. Et en rentrant en France, j'avais envie de Bretagne. Donc, finalement, là où j'avais de la famille, il y en avait un peu dans le Finistère, mes grands-parents, et un oncle et un cousin dans les Côtes d'Armor. Et je me suis dit, je vais aller du côté de Saint-Brieuc, enfin, dans le coin, parce que j'avais envie de Bretagne, quoi. Donc, ça s'est fait un peu par cette envie-là, et puis le côté famille. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré, par le boulot et par les amis, je suis arrivée dans le coin, quoi. Dans, je veux dire, le pays de Montcontour, les portes du Menet, des éleveurs.
Mais c'est pas vieux, ça?
Ah non, ça, c'est pas vieux, c'est 2014. Donc, ça va faire 6 ans que je suis dans les Côtes d'Armor et 3 ans que je suis à Montcontour.
Alors, tu viens à mon contour avec un projet en tête ou les choses s'enchaînent les unes les autres?
Je viens à mon contour avec l'envie d'y vivre, avec cet attrait de ces gens qui savent faire des choses avec trois fois rien. Ces pierres qui sont, enfin, qui parlent, ouais, ou je sais pas comment il faut le dire, cette beauté, quoi, ça fait du bien, cette ville, elle fait du bien. Maintenant, je cherche une maison où vivre et être bien, et je tombe sur une maison qui peut aussi, au moment où je l'achète, c'est une maison qui avait été un commerce, qui était tenu par des Anglais, un salon de thé. Et donc, je me dis, oui, je veux bien une maison qui ne soit pas qu'une maison, en fait. Et donc, le projet, il naît... j'arrive pas avec, en fait. C'est cette maison aussi qui l'inspire dans son histoire récente et dans ce qu'elle est capable d'offrir et dans le fait que, à un moment donné, moi, j'ai toujours été... j'ai bossé 10 ans dans le développement local, donc plutôt comme salarié, et que j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie d'être... peut-être plus autonome, d'expérimenter autre chose dans le monde du travail, de décider moi-même, et qu'en fait, cette maison, j'avais envie de la faire vivre, et j'avais envie aussi qu'elle m'aide à vivre d'autres choses, quoi. Enfin, c'était un mélange de tout ça. Donc, je suis pas arrivée avec le projet, il est né un peu de cette rencontre avec cette maison. J'ai fait une formation pour réfléchir à ce projet de café au départ. Le café du théâtre, c'est venu assez vite comme nom, mais c'était pas tout de suite. Mais je savais qu'il y avait l'idée de manger, d'accueillir les gens et l'idée d'offrir des histoires. C'était les deux. Et je savais surtout que j'avais eu, alors c'est encore en projet, mais une amie congolaise qui doit encore venir en France et que je voulais accueillir et qui, elle, est cuisinière. Et donc je m'étais dit, en fait, on va mélanger nos savoir-faire. Et moi, je pensais qu'elle serait en cuisine et moi, je serais aux histoires, à l'animation, à la gestion, enfin, à tout le reste, grosso modo. Et au final, je me retrouve à faire les deux. Mais c'est parce que je savais que Radika allait venir que j'ai pensé à ce projet-là qui conjuguait un peu nos trucs. Maintenant, est-ce que c'est facile? J'en sais rien. Il y a un moment où l'idée, elle est là et elle est plus forte que nous. Et il y a aussi ce que je disais, c'est que j'ai fait une formation, un peu de l'idée au projet, où quand on a une idée, un rêve, ça permet de savoir si, quand il devient réalité et concret, est-ce que j'en ai toujours autant envie. Bon, au bout des 2 mois de formation, oui, voire même plus.
T'as ouvert finalement l'été dernier, c'est ça? Ou je me trompe?
Oui, en juin dernier. J'avais dit que j'ouvrirais au printemps. Bon, j'ai ouvert le dernier jour du printemps, le 20 juin. Oui, c'est ça, le 20 juin pour la fête
2019. Donc du coup, ça te fait un été à peu près classique 2019 et un été 2020 qui finalement, à mon contour, s'est plutôt bien passé malgré le confinement, etc. Mais du coup, tu as un recul sur 2 saisons où tu as porté seule cette ouverture du café du théâtre. Qu'est-ce que tu en retires, toi, en tant que femme?
Alors déjà, ça me fait vivre l'été. Enfin, l'été dernier, j'en ai tiré un salaire correct, quoi, un SMIC. Et mine de rien, c'était pas gagné. Donc, c'est ma fierté à moi de dire, au moins en saison, je peux vivre de ça. Pas toute l'année, mais de ça. Et après, ça me fait découvrir que je suis capable de choses dont je pensais pas que j'étais capable. Notamment faire la cuisine pour, 10, 20, 30 personnes par jour, c'est un petit lieu, hein. Mais j'ai aussi relevé des défis... pour un festival d'art de rue qui a lieu à mon contour chaque année et qui a eu lieu cette année malgré confinement. Et on est fiers d'avoir des assos, des bénévoles qui sont capables d'organiser des choses malgré les conditions sanitaires. Et moi, l'année dernière, mon défi, ça a été de faire la cuisine avec l'aide d'un gars d'ici aussi, pareil. On était combien? Enfin, 80 bénévoles, je crois. Du poulet yassa, un repas à la sénégalaise, et donc de faire les repas pour les bénévoles, de faire le déjeuner pour les clients le dimanche midi, et de refaire le repas des bénévoles pour le dimanche soir. En gros, ma plus grosse journée de tout l'été, c'était à la fin de l'été avec Ouais, je suis fière quand j'arrive à faire la cuisine, alors qu'à la base, j'avais dit que c'est pas mon truc.
À la base, il y a cette copine congolaise dont on n'a pas trop le temps de parler, mais on la salue au passage. Hein. Et puis, tout à l'heure, tu nous emmèneras carrément à Brazzaville, en musique. Mais avant, je voudrais que tu nous lises un deuxième texte, puisque tu as parlé d'un festival d'art de rue qui s'est passé à Moncontour, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous lire le deuxième texte que tu as choisi ? Et ça semblait te faire rire et te faire sourire, alors j'aimerais bien comprendre pourquoi. Ou est-ce que tu nous lis le texte avant et tu nous dis pourquoi ça te fait sourire ?
Bah, ça me fait sourire parce que c'est... Alors là, c'est une autre partie de mon histoire à Moncontour, mais ce texte, c'est un mélange de tous les rôles que j'ai pu jouer ou que j'ai pu avoir pour le festival d'art de rue, qui est une des raisons qui me donne envie de venir à Moncontour. Et voilà, j'ai été une simple spectatrice et... Et en fait, ce discours, je l'ai écrit en tant que maire de Moncontour. Donc, ça fait un joli parcours pour quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Joyeux anniversaire, Rue Delarté. Déjà 15 ans, te v'là bien grand. Moi, il y a seulement 5 ans que je te connais et que tu fais rêver mon âme d'enfant. D'abord comme une simple spectatrice. Depuis, on est devenus plus complices. En servant le petit-déj à tes artistes, j'ai découvert un peu de tes coulisses. Mais c'est ton équipe de bénévoles qui m'a bluffée. Quand je vois toute l'énergie qui est déployée, même ta présidente s'est mise à prier. Un cierge à Saint-Mathurin pour que la pluie soit éloignée. Mais cette année, c'est au nom de la commune de Moncontour que je te fais ce petit discours. À la mairie, on t'attend dans la cour. Voilà, Rue Delarté, c'était mes 15 vers pour ton anniversaire.
Alors là, il faut que tu nous expliques quelque chose quand même, Anne-Gaude Milori. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mars ? Alors c'est ça, on est dans la cour de la mairie. Le 15 mars, tu es dans la cour de la mairie et ton statut a changé. Le 15 mars, c'était les élections municipales, c'est ça ?
Ouais, alors il y a le 15 mars et il y a le 26 mai.
Ah, pourquoi ?
Bah, le 15 mars, on était la veille ou l'avant-veille du confinement. Et oui, c'était les élections. Et en fait, j'étais candidate tête de liste de l'unique liste de Moncontour. Et on a monté une équipe où on est 14 nouveaux et il y a un élu qui a déjà été élu. Et on est tous passés au premier tour. Donc ça, c'est une fierté, déjà. C'est une surprise aussi parce que c'était pas dans le programme. Enfin, je veux dire, ça s'est fait aussi par sollicitation et par histoire qui se fait tout seul. Des fois, et d'opportunités à saisir et d'envie aussi, parce que l'envie de s'engager, elle existe depuis très longtemps. Vu que je voulais être présidente de la République, ben, pourquoi pas,
maire. Ma mère de Moncontour, c'est encore mieux.
Voilà, hein, j'ai envie de dire, on va commencer à la petite échelle et on va voir. Mais j'avais dit aux gens, faut qu'on apprenne à se connaître. Bon, alors moi, j'avais dit présidente de la République, donc j'ai toujours eu envie de changer les choses, donc voilà. Si on peut contribuer à ce que ça se passe mieux. Et donc,
le 26 mai.
Ben, 26 mai, c'est la véritable installation, dans le sens où, comme c'était le début du confinement, on était prêt à s'installer, mais finalement, aucun conseil n'a été installé, donc l'ancienne équipe est restée en place. Ça nous a fait un peu 2 mois de stage intensif, parce qu'on a bossé ensemble quand même, et on a vraiment été installés le 26 mai de cette année. Donc, j'ai été élue maire par le conseil municipal le 26 mai 2020.
D'accord, merci pour la nuance. On n'a malheureusement pas le temps de parler un peu de cette nouvelle partie de ta vie. Par contre, j'ai le souvenir d'une photo que j'ai vue qui m'a fait te recontacter, Anne-Gaude. C'est la belle tenue que tu avais pour nous dire aux réseaux sociaux, la nouvelle maire de Moncontour, c'est moi. Tu peux nous décrire cette tenue ?
Eh ben, c'est celle du 26 mai, justement, où j'étais... j'avais une veste-costume, quoi, on va dire comme ça, veste-tailleur, pas tout à fait tailleur. Et en dessous, j'avais une tenue en pagne, un haut en pagne. Donc, tout était bleu et blanc et rouge. Et c'était ma façon à moi d'être à la fois française et congolaise, ce qui, je pense, me définit pas mal, mon côté franco-congolaise, parce que j'ai vécu... 6-7 ans au Congo-Brazzaville. Et donc, mon cœur y est encore en partie. Enfin, je veux dire, ma vie, une partie de moi est vraiment liée à ce pays. Et du coup, c'était ma façon à moi d'honorer ça et de dire aussi qui je suis en arrivant à cette fonction.
C'est aussi l'idée de ne pas te grimer quelque part ou de ne pas rentrer dans le moule, dans un certain conformisme quelque part. C'est d'assumer qui tu es et l'histoire qui t'a amené là.
Oui, c'est ça. Je me rappelle que quand je me suis posé la question de m'engager, j'ai mis un an avant de vraiment, entre les premières fois où on m'en a parlé et le moment où j'ai dit « Ok, j'y vais ». Et parmi les questions, il y avait celle du prêt de, j'avais pas envie de rentrer dans du prêt-à-porter, du costume trop grand. Déjà, on voit un homme grand. Enfin bref, je suis une femme. Enfin, on sent bien que ça, déjà, ça change quelque chose, que j'ai ma façon à moi de faire les choses et de voir les choses, et que j'avais vraiment envie de ça, mais que je savais pas à quel point j'allais arriver à le faire. C'est-à-dire que j'avais envie de proposer de faire autrement. Faire autrement, c'était de jouer collectif. Faire autrement, c'était faire aussi à ma manière, comme je suis. Et ma crainte, c'était de rentrer dans du prêt-à-porter. Et les choses font que, quelque part, non. Ça passe par une tenue vestimentaire, mais ça passe aussi par des événements qui montrent qu'à un moment donné, je suis obligée d'être moi-même. De toute façon, même si je voulais essayer de faire comme le chemin tout tracé, ça marche pas. Et les événements font que je suis obligée d'assumer qui je suis et comment je fonctionne, et d'avoir une équipe avec qui on décide de composer et de comment dire, eh ben on se construit au fur et à mesure, et aussi dans notre façon de voir les choses et de travailler, et c'est riche et ça demande du temps, dans le sens où on fait au fur et à mesure, on n'est pas encore tout calé, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant. Moi, si c'était juste pour gérer, ça ne m'intéresserait pas.
Ça me fait penser à ce que tu viens de me dire pendant que les cloches sonnaient à tout va à côté. Si la cuisine t'a découvert, et tu nous en parleras tout à l'heure après le morceau de musique. Mais s'il fallait juste suivre des recettes, et c'est vrai pour la femme politique comme pour la cuisinière que tu es devenue sur le tard, ça n'a aucun intérêt. Ce qui t'intéresse, c'est aussi construire, imaginer, improviser, c'est ça?
Oui, en fait, oui, carrément. En fait, c'est tout le temps comme ça.
Mais donc, c'est aussi un rapport à la liberté. Important. Tu n'as pas envie de renoncer, en fait, à ta liberté.
Non, merci de me le dire. Je ne me rends pas toujours compte. Mais non, et surtout, je n'ai pas envie de renoncer d'avance. C'est-à-dire que je ne me dise pas non, c'est... Enfin, il y a sûrement des moments où je me le dis, mais j'ai envie d'essayer avant de dire que ce n'est pas possible. Tant que je n'ai pas essayé, j'en sais rien. Il y a des moments où on se frotte à ses limites quand même, physique ou autre. Mais tant que j'ai pas essayé, qu'on me dise pas c'est impossible, j'en sais rien. Donc on essaye au moins. Et ce on essaye, c'est un jeu et c'est un nous. C'est-à-dire qu'on y aille ensemble, c'est beau aussi quoi.
Donc, alors tu nous emmènes déjà avec qui là? Donc deuxième morceau de musique. Tu nous emmènes Congo Brazzaville avec le groupe Bantu de la capitale. Makambo Mibale, un mot sur ce morceau, pourquoi?
Je pense que c'est un des plus connus des Bantu de la capitale. En tout cas, moi, c'est un de ceux que je connais le plus. Les Bantu de la capitale, c'est un des groupes dont j'ai entendu des années 60-70 au Congo Brazzaville, à l'époque de la rumba congolaise qui avait un succès de part et d'autre du fleuve international. Et c'est une vraie musique qui porte. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens du groupe à l'époque où ils avaient encore 80 ans. Enfin, ils existent. Certains sont décédés, notamment le fondateur. Mais c'est une vraie porte d'entrée sur le Congo Brazzaville qui est magnifique. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Oui, la rumba congolaise, c'est toute une histoire. Yami bale li kambo ya basi baninga boti ya matoye Soki bana mi bali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi ya kokine ko kabola bango soki ya kotina kati ya bango na li kambo ya falanga na kanisi bino moko boyebi malamu baninga boke baho na yebite o Soki boko dute na maloba mangai, na kanisi pete ho. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi ya kokine ko kabola bango, soki ya koti na kati ya bango. Na likambo ya falanga, na kanisi bino moko boyebi, malamu baninga poke baho, na yebite ho. Soki boko dute na maloba mangai, na kanisi pete ho. Mm-hmm.
milokola bakufa elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akoti na kati ya bango na likambo ya faranga nakanisi bino moko boyebi malamu baninga kokeba o nayebi te o soki bokodu te na maloba mangai nakanisi mpe te o na makambo oyo kotia tembe te baninga bangai oye kene epai ya bazuzi makambo bakosambaka mosusu yango oyo likambo tokowelaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o baninga mibali o tokebaka la vie ya tokomba oye na makambo oyo kotia tembe te baninga bangai oye kene epai ya bazuzi makambo bakosambaka mosusu yango oyo likambo tokowelaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o baninga mibali o tokebaka la vie ya tokomba oye
ayaya
tembete baninga bangai oye kene epai ya bazuzi makambo bakosambaka mosusu yango oyo likambo tokowelaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka o baninga mibali o tokebaka la vie tokoba
femme de caractère Françoise Ramel.
Merci beaucoup pour ce partage, Ango de Milori. Voilà. Alors, de la rumba congolaise aux femmes, je n'ai pas de transition, c'est clair. Mais j'ai envie que tu me dises, voilà, tu as vécu 6-7 ans loin de la France, loin d'une métropole. Est-ce que là-bas, les femmes africaines t'ont appris quelque chose ou dans cette rencontre avec cette Afrique-là, il s'est passé quelque chose pour la femme que tu es?
Ah bah, il s'est forcément passé plein de choses sur la question des femmes. Ce que j'ai vécu, c'est plein de choses dans le sens, c'est ni noir ni blanc, c'est le cas de le dire pour l'Afrique, c'est un peu facile, mais on a souvent une vision un peu caricaturale de la place des femmes, par exemple, sur le fait qu'elles soient, qu'on peut dire opprimées ou dominées, j'en sais rien. Pour moi, ma première expérience au Congo-Brazzaville, j'avais même pas 20 ans. La première question de femme qu'on pose, c'est celle de mère. J'avais 19 ans, on me regarde, on me dit « Est-ce que tu as mis au monde ?» Non, pas encore. « Oh, mais tu attends quoi ?» Donc la question de la femme, c'est la question de la mère. Enfin, quelque part, au Congo, on m'appelle Mamana. Donc c'est une façon de respecter la femme que de lui dire ça. Et même les petites, hein. Si c'est une petite fille, mais qu'on veut te dire, qu'on veut te marquer le respect, on te dit, oh, maman, vas-y, apporte-moi ça. Et dans la rue, tu es interpellé. Si tu interpelles un homme, si tu interpelles une femme, par respect, tu vas dire, pardon, papa, je cherche tel truc. Pardon, maman, je cherche ça. Tu peux m'indiquer la route. Et donc, clairement, en tant que femme, c'est la question, entre autres, la question d'être mère, à l'africaine qui touche en premier. Et si moi, je m'étais pas posé la question avant, enfin, je me l'étais posée, mais si je me l'étais pas posée, de toute façon, on me la poserait. Enfin, je veux dire, on peut plus l'éviter. Être une femme, c'est potentiellement être une mère. Ce qui, dans la question féministe, pose plein de questions, pour moi. Et après, l'autre, c'est celle de dire est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on subit pas. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est à la fois le caractère des femmes et à quel point elles peuvent être très fortes. Et à quel point aussi elles peuvent parfois être très fragiles et... Bon, j'ai vu des femmes être battues, oui, j'ai vu des femmes, des veuves être complètement dépouillées. Donc il y a des situations sociales hyper difficiles et il y a des situations où c'est elles aussi qui mènent la danse. Là, si on parlait de rumba congolaise. Et ce dont je me suis rendu compte sur la question des femmes et des hommes là-bas, c'est la question de chacun son rôle. Et quand on joue pas son rôle... alors on peut devenir un moins... on peut être traité de moins que rien. Si on met pas... si, par exemple, en tant que femme, on n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est la faute de la femme. Et donc, on peut être remis en question par rapport à ça. Si, en tant qu'homme, on n'arrive pas à ramener de l'argent à la maison, alors on peut être pris pour un moins que rien. Et du coup, le rapport entre les deux et le rapport avec les familles, il est lié à ça. Est-ce que tu remplis ton rôle dans la société? Et si tu le remplis pas, alors problème. Mais par contre, on peut avoir des femmes fortes et des femmes fragiles, et les deux à la fois, et des hommes forts mais des hommes fragiles. Et c'était pas si... Enfin voilà, c'était pas aussi... Il y a plus de subtilité. Enfin moi, j'ai trouvé que c'était complexe. C'était pas aussi simple et caricatural que l'image qu'on peut en avoir. Ouais.
Alors je t'ai demandé pour femme de caractère, Anne-Gaude Millory, comme à toutes mes invitées, de choisir une femme inspirante. Alors, de qui veux-tu nous parler ?
Ah ouais, alors j'ai choisi Christiane Taubira comme femme inspirante que je connais pas tant que ça, hein, dans le sens où je la connais de loin, que je me rappelle quand elle s'est présentée pour les élections présidentielles en 2002, je crois. Je trouvais ça génial en fait, que c'est con hein, mais de le dire comme ça, mais qu'une femme noire ose se présenter et prendre de la place dans l'échiquier politique, je sais pas comment il faut dire, bah qu'elle ose en fait. J'étais là, mais oui, il faut qu'une femme comme ça, avec des femmes comme ça, ose. Et en plus, elle est loin d'être bête, à la fois sur le côté, bah moi ce qui m'impressionne et m'inspire, c'est son courage politique, c'est aussi son côté écrivaine, poétesse, donc c'est son côté intellectuel, c'est sa capacité à mettre à la fois des sujets graves et importants, à la fois de la poésie, à la fois... Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence, il y a de la finesse, enfin... il y a de la recherche, enfin, c'est... Et le peu de fois que j'ai entendu soit des interviews, soit des discours, bah, ça porte, quoi. Quand elle se met en colère, quand elle remet les choses à leur place, enfin... Et je me dis, bah... Ouais, ça inspire, forcément que ça inspire.
C'est aussi une femme politique dans ce paysage français qui incarne l'intégrité. Quand elle n'est pas d'accord, quand elle ne peut pas assumer un choix collectif, elle le dit, elle s'en va, mais elle continue à se battre, à porter une voix, à compter, parce que c'est aussi une femme qui a conscience qu'elle ouvre des voies pour d'autres femmes, pour d'autres hommes, pour faire une politique différente.
Bah moi je le vois comme ça, oui. Et j'aimerais presque la suivre un peu plus près, enfin dans le sens où oui, elle est intègre et elle est entière. Et ben ça fait du bien juste savoir que c'est possible en fait. Simplement, bah, c'est
dire qu'on n'est pas obligé de s'écraser, un peu ça l'idée.
Ouais, dire qu'on n'est pas obligé de s'écraser, dire qu'on continue à avoir sa place tout en disant non. Je sais pas comment l'expliquer. C'est aussi savoir avoir de l'endurance. C'est pas si évident que ça. Même si dans ce que j'ai lu, c'est aussi parfois de l'épuisement. des nuits entières. C'est, elle explique que c'est quelqu'un qui écrit beaucoup la nuit, qui a beaucoup habité la nuit. Je trouve ça joli déjà de le dire comme ça. Et j'imagine les heures que ça peut être que de travailler sur certains sujets, sur certains discours, sur certains, enfin sur des combats, etc. Et en même temps d'avoir cette rage là ou cette envie là qui porte, bah ça impressionne quand même. Et ça inspire, oui.
Tu as choisi un texte, Christiane Taubira, à nous partager ?
C'est court, mais c'est une façon où elle s'affirme pas mal. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était un extrait à l'Assemblée nationale où le 19 mai, une députée UMP l'aborde sur la question des enfants nés de la gestation pour autrui, de la GPA, et dénonce la complicité hypocrite du gouvernement et le fait que la justice égalise ce proxénétisme procréatif. Donc ça, c'est la réplique de la députée. Et Christiane Taubira répond que la GPA est bien interdite dans ce pays, mais qu'il faut prendre en compte les cas des enfants nés par ce biais. Madame, s'il s'agit d'enfants et en chair et en os, d'enfants qui vont à l'école, qui sont aussi doués que les autres pour agacer les enseignants, pour énerver leurs parents, mais d'enfants de ce pays, d'enfants de la République, et quoi que vous disiez, on va les protéger, madame. C'est court, mais c'est pour moi essentiel, et elle remet les choses à leur place, en fait. Elle remet les choses à leur place dans le rôle qui est qui est le nôtre en tant que nation, en tant que pays, de protéger les enfants. Moi, c'est un sujet qui me touche. Là, ça parle de la GPA, mais de manière générale, de savoir remettre les choses dans l'ordre et de pas faire subir aux enfants des choix que les adultes savent pas assumer. Des hypocrisies ou des discriminations, et de savoir dire que ça les regarde pas et qu'on va protéger les enfants parce que ça reste des enfants quelles que soient les conditions, bah oui, c'est fort. Et je pense que c'est important qu'on se le rappelle encore aujourd'hui, que c'est notre rôle de les protéger.
Anne Gaude, le temps passe trop vite avant que les cloches ressonnent. Dernier morceau pour nous dire au revoir. Alors, au revoir à mon contour, au revoir Anne Gaude.
Alors, je vous emmène un peu dans un retour au confinement. Moi, c'est dans la période du confinement que j'ai découvert cette chanteuse. C'est Clara Isé. Le monde s'est dédoublé. Et c'est très fort. Et j'ai trouvé très porteur dans cette période où on parle du monde d'avant, du monde d'après et de tout ce qui est en train de bouger. Et en même temps, de cette force qui nous laisse entendre qu'il y a de l'espoir et qu'il y a quelque chose vers quoi on tend. Et voilà. Donc, ça a été une vraie... une musique vraiment qui m'a portée pendant tout le confinement et vers quelque chose auquel j'aspire. Voilà. Le monde s'est dédoublé. C'était très beau.
Merci beaucoup Anne Gaude pour ce moment partagé avec toi, chez toi, dans ton boudoir. À bientôt.
À bientôt, merci Françoise. À bientôt.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié. Que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares.